Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes.
You are fake news.
Hello. Bienvenue à tous et à toutes dans l'instant M.
Vous coupez ?
Non, non.
Vous êtes en direct, allez-y.
Avoir deux métiers différents, c'est souvent une évidence pour les enfants. Pour ma part, je prévoyais de devenir astronaute et boulangère. Et puis j'ai réalisé qu'il ne serait pas facile d'assumer les deux en même temps. Il y a les difficultés logistiques, bien sûr, mais surtout, qu'allaient penser les clients de la boulangerie ? Serais-je crédible à leurs yeux en étant aussi astronaute ? Mon invité du jour a bel et bien deux métiers. Animateur de jeux télé et journaliste sur une chaîne d'info. Certes, la caméra est un immense point commun entre les deux. Samuel Etienne est sur France Info, la chaîne de télé, tous les matins, et sur France 3 tous les soirs pour Questions pour un champion. À l'heure où l'on ne parle que de la défiance à l'égard des journalistes, cette double casquette est-elle un atout ou un péril ? Quand il a succédé à Julien Lepers, beaucoup estimaient qu'il ne serait plus jamais journaliste. Faisons un bilan puisque ça fait déjà 3 ans.
L'instant M. Dorothée Barba sur France Inter.
Bonjour Samuel Etienne.
Bonjour, j'aime beaucoup Dorothée, comment vous l'avez amené, l'histoire du boulanger, de la boulangère plutôt, de l'astronaute.
Et c'est une question.
Mais c'est dommage que vous n'ayez pas réussi à faire les deux, le programme était sympa.
C'est une question de crédibilité, on y reviendra. Vous venez en effet de fêter vos 3 ans aux commandes de Questions pour un champion, bon anniversaire.
Merci, c'est gentil.
On est encore loin des 28 ans de Julien Lepers, mais tout de même, avez-vous l'impression que vous êtes aujourd'hui adopté par le public de ce jeu emblématique sur France 3 ?
Adoption, le mot est le bon, parce que quand on anime, comme Julien l'a fait pendant près de 28 ans, un jeu, on fait partie de la famille. Et puis moi, il a fallu m'adopter, c'est le mot. Et au début, il y a eu un peu de défiance d'une partie des téléspectateurs. En fait, il y avait 3 gros tiers téléspectateurs. Il y avait ceux qui étaient contents de me voir parce qu'ils me connaissaient d'avant. Il y a ceux qu'on avait un peu rien à fiche. Pour eux, l'important, c'était le jeu et qu'il dure. Et puis, il y avait un tiers de vrais fans de Julien, et c'est eux que j'ai dû convaincre. Et puis, 3 ans après, je me suis rendu compte. Alors, il y a les audiences, bien sûr, qui sont bonnes, mais bon, les audiences, c'est pas toujours un bon indicateur de tout. Elles sont bonnes, tant mieux, on s'en félicite et c'est bien pour le jeu. Mais ce qui est important surtout sont les courriers, parce que je reçois énormément de, et pas seulement des mails, de courriers, de lettres, de téléspectateurs.
Ouais.
Et alors au début, j'avais des reproches, et comment ça, vous avez pris la place de Julien, et voilà, et parfois un ton assez offensif, et puis le ton de ces lettres a changé au fil des mois. Et puis les plus touchantes que j'ai reçues au bout d'un certain temps, je dirais à partir d'un an, ça a été, écoutez monsieur Etienne, je vous écris parce que je tiens un peu à m'excuser, je vous ai écrit il y a un an pour vous dire toute ma colère, et aujourd'hui je trouve que vous faites plutôt bien le job, donc merci. Et c'est là que j'ai compris que le pari était gagné. Quoi.
Et la question de cette double casquette se pose aussi, on y revient dans un instant, juste après un coup d'œil à l'actualité des médias. Avec d'abord cette révélation de Mediapart sur les fiches auditeurs pratiquées à Europe 1 pendant 20 ans. Les auditeurs qui appelaient le standard de la station de radio se retrouvaient fichés, avec parfois des mentions sur leur origine, leur santé ou leur sexualité supposée. Accent juif tunisien insistant et désagréable, peut-on lire par exemple sur l'une de ces fiches, ou encore voix de vieille pédale. La CNIL, la Commission Informatique et Liberté, a découvert ce fichier dans les locaux d'Europe 1 en 2016 et a prononcé un simple avertissement, mais n'avait pas rendu public ses conclusions à l'époque. La direction d'Europe 1 assure qu'elle n'avait pas connaissance de la conservation de ces données. C'est un dessin de presse qui avait fait grand bruit dans le monde entier. On apprend aujourd'hui qu'il n'est pas considéré officiellement comme sexiste et raciste. Une caricature publiée dans le Herald Sun, journal australien, on y voyait Serena Williams, furieuse, sauter à pieds joints sur sa raquette. Et l'arbitre demandait à son adversaire « Vous voulez pas la laisser gagner ?» Le dessin faisait suite à la grosse colère de la championne après sa finale perdue de l'US Open. Le régulateur des médias australien avait été saisi en raison de l'attitude jugée bestiale de la joueuse dans le dessin. Sa carrure et ses lèvres et une posture évoquant celle d'un singe. Le conseil de la presse australienne a considéré au contraire que l'intention du journal était de dénoncer, je cite, un comportement puéril en la montrant sautant partout et crachant sa tétine. Neuf points gagnants.
C'est affreux parce que j'ai envie de sortir mes fiches jaunes quand j'entends ça.
C'est ça, Samuel Etienne, animateur donc de Questions pour un champion et mon invité. Je le disais, 9 points gagnants, 4 à la suite, face à face. Les 3 épreuves mythiques du jeu n'ont pas bougé à votre arrivée, Samuel Etienne. Le décor, si, un peu, mais les règles, non. Sont-elles gravées dans le marbre pour l'éternité ?
Quasi, enfin, comment dire. En fait, c'est un toilettage très léger qu'on opère sur ce jeu depuis le début, d'ailleurs. Effectivement, le décor a un peu changé. On change parfois à la marge les règles. On augmente, par exemple, le face-à-face, par exemple. Quand je l'ai trouvé, il était à 15 points. Et puis, on l'a ramené à 12.
Parce qu'on la révolution.
Oui, voilà. C'est... Mais vous savez que certains téléspectateurs fidèles nous écrivent en disant « Pop, 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 ça change la philosophie du jeu. » Non, quand un jeu fonctionne comme celui-ci, par exemple, on m'a proposé, c'était un peu étrange, à mon arrivée, qu'est-ce que tu penses de l'idée de changer la couleur des fiches ?
Elles sont jaunes.
Et je dis, mais non, jaune, mais jaune. Non. Et en fait, on est là dans une émission, il y en a d'autres, mais qui font un peu partie du patrimoine de notre pays, télévisuel en tout cas. Et donc, un toilettage de temps en temps et un changement de présentateur pour moi est un toilettage, par exemple. Mais une
donc, c'est vous
non.
qui êtes conservateur, Samuel Etienne, pour la couleur des fiches, c'est vous qui êtes
réactif. Ah oui, clairement, j'aurais dit, ah non, non, là, oui, j'ai totalement assuré mon conservatisme, je leur ai dit, non, non, il y a peut-être des choses à bouger un petit peu, peut-être au niveau de moi du ton que je voulais donner à l'émission et puis le rapport que j'avais avec les candidats. En tout cas, ils mettent ma patte, ce que je savais faire, mais il y a des choses comme ça qui fonctionnent bien et la couleur des fiches en est une.
Et les fiches jaunes ne sont jamais lancées en l'air comme le faisait Julien Lepers.
Non, parce qu'on a chacun nos petits tics et puis moi, les gens me disent, il est trop gentil pour être honnête. Et non, je crois que je suis un vrai gentil, hélas. Et quand l'idée de jeter les fiches, ça me fait penser à ceux qui vont les ramasser après, en fait, moi.
Il y a parfois des moments de pure magie.
En poésie, quelle...
Oh, je me suis trompée.
Essayez, tentez quelque chose.
Hémistiche. Non.
Si. Oh. Ah non. Ah non. Alors là. Ah non. Ah non. Marie-Jeanne. Mais c'est impossible. Oh, c'est formidable.
J'aime
c'est formidable.
La poésie.
Ah voilà. Oui. Et la poésie vous le rend bien.
Oui.
Et voilà, cette candidate avait buzzé trop tôt et elle a trouvé Hémistiche.
Ça arrive souvent parce que les buzzers sont des animaux un peu sensibles et parfois un candidat buzz malgré lui, tellement il a envie de jouer. Évidemment, donc la question commence par en poésie, il y a un millier, des dizaines de milliers de réponses possibles. Est-ce qu'on va sur un vers? Est-ce qu'on va vers un poète? Est-ce qu'il faut citer un poème? Et non, et ce mot vient et c'est le bon. Et ça, c'est magique.
Et on rappelle que l'hémistiche, c'est la césure, bien sûr, au milieu du vers. Ce qui me frappe, Samuel Etienne, dans votre façon d'animer ce jeu, c'est qu'il n'y a jamais d'ironie. Jamais vous ne vous moquez, même le plus gentiment du monde, d'un candidat. Est-ce que c'est contractuel, cette histoire ?
Non, pas du tout. Mais c'est contractuel avec moi-même. C'est-à-dire que je suis incapable de le faire parce que ça fonctionne pas. C'est pas le regard que je porte sur le monde et puis les autres. Je trouve que notre monde est singulièrement quand même dur, stressant et violent. Et si je peux moi y apporter plutôt un peu de douceur et de mansuétude et un regard doux sur les gens, je le fais. C'est ce que j'essaie de faire dans le journalisme depuis 20 ans, à ma façon, à moi. C'est le regard que je porte sur le monde. Et ben dans le jeu, c'est pareil. J'essaie plutôt de mettre en avant les candidats. Pour moi, un candidat, à chaque fois, c'est une planète. C'est un univers, une culture, une sensibilité, un humour. Et j'essaie de faire découvrir cette planète avec des histoires parfois assez étonnantes, puis parfois des moments forts comme celui qu'on vient de vivre. Mais c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé de me moquer des gens.
Alors, vous avez enregistré Question pour un champion récemment au Musée du Louvre. Ah, c'était une première pour l'émission en 30 ans. Envie de renouveler cette expérience?
Et une première pour le Louvre. On était les premiers surpris, en fait. C'est la première fois que le Louvre acceptait un jeu.
Il y a eu Beyoncé qui a enregistré un clip, mais un jeu télé. C'est une première.
En fait, on a eu cette idée un peu folle. Tiens, on sortira bien, ok. Les journées du patrimoine arrivent. Alors, dans quel lieu on pourrait faire ça? Et puis, avec mon producteur, on se dit, en rigolant, allez, le musée du Louvre.
Mais alors, pourquoi pas au musée des Beaux-Arts de Lyon, de Bordeaux, au MUCEM de Marseille?
Ça peut être la suite. Ça.
Après tout, France 3 est la chaîne des régions,
mais
que diable.
Ça peut être la suite. Effectivement.
Il fallait commencer au Louvre.
Bah, disons qu'en fait, cette idée était folle. C'est-à-dire qu'on l'a lancée comme une blague. Et la surprise, c'est quand on a appelé le Louvre, ils nous ont dit, pourquoi pas? On était très surpris de cette réaction, on a fait une belle émission, mais on s'y attendait pas. Maintenant qu'on a vu d'abord le résultat et la façon dont ça a touché les téléspectateurs, c'est vrai que jouer à côté de la victoire de Samothrace, de la Joconde, de la Vénus de Milo et puis de plein d'autres œuvres comme ça, c'était assez étonnant. Et la réaction des téléspectateurs nous a surpris. Et là, maintenant, on a envie de renouveler l'expérience.
Alors, avant votre arrivée, vous le disiez, les audiences étaient en baisse depuis des années. Ça va mieux aujourd'hui, Samuel Etienne?
Oui, ça va mieux. Enfin, en fait, moi, je veux pas jeter la pierre à mon prédécesseur qui a fait un super boulot. En fait, ça baissait depuis 15 ans pour des raisons tout à fait logiques. Les chaînes s'étaient multipliées, la concurrence n'était plus du tout la même, comme toutes les chaînes historiques, les grands, les programmes. Ça baissait. Et à un moment, la question de France 3, c'était, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on, doucement, on se résout à l'idée d'arrêter, puis d'essayer autre chose, ou est-ce qu'on essaie de redonner un deuxième souffle à ce jeu, qui peut passer par un changement de présentateur pour relancer les audiences à la hausse. Ça, c'était le pari de Dana Astier, qui à l'époque présidait au Destiné de France 3. Et en fait, après 15 ans de baisse des audiences, effectivement, on a d'abord réussi, ce qui était une première victoire,
à stabiliser.
On a arrêté la chute, ce qui était une première victoire. Et depuis un an et demi maintenant, elles sont reparties à la hausse, ce qui était presque inespéré, mais on a réussi ça, donc on est content.
Alors, on en vient à cette double identité professionnelle, Samuel Etienne, puisque vous êtes aussi tous les matins sur France Info, la chaîne de télé, hein, Canal 25. Toujours journaliste, donc.
Oui.
Ouais.
Toujours journaliste.
Est-ce que vous pensez que le grand public vous perçoit encore comme un journaliste ?
En fait, je conçois et je trouve normal que la question se pose de la part des journalistes. Moi, en tant que journaliste, je me la pose.
Mais le grand public connaît beaucoup mieux le Samuel Etienne, présentateur de Questions pour un champion, que le Samuel Etienne.
Non, c'est possible. J'en serais un peu triste parce que je fais ce métier depuis 20 ans. Mais c'est pas impossible. Et je l'ai vu dans la rue, effectivement.
Mais la matinale de France Info est moins identifiée que Questions pour un champion.
J'ai présenté le 12-13 sur France 3 pendant 5 ans, qui faisait les mêmes audiences que Questions pour un champion. J'ai travaillé sur Canal+, j'ai fait d'autres choses. Sur Europe 1 également. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a surpris. Je pensais que ma petite notoriété n'allait pas évoluer, en fait. Et en fait, si. Et c'est là que j'ai compris la différence de lien entre le journaliste présentateur, par exemple, d'info, et le public, et celui d'un animateur avec le public. On rentre littéralement chez les gens, et on rentre un peu dans un lien d'amitié, sinon de famille. Donc c'est un lien peut-être pas quantitativement plus fort, mais qualitativement plus fort, c'est vrai.
Vous êtes le seul, hein, si je ne m'abuse, à avoir cette double casquette aujourd'hui, journaliste et présentateur de jeux. Mais vous avez d'illustres prédécesseurs qui s'appellent Léon Zitrone, Pierre Bellemare, Philippe Gildas. Depuis, la télé s'est cloisonnée, semble-t-il. Est-ce que c'est un problème, selon vous ?
Oui, enfin, là encore, je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que je conçois que les journalistes se posent la question. Parce que nous faisons un métier à part, qui est un beau métier. Moi, je ne comprends pas, quand je vois les enquêtes se multiplier, la défiance qu'ont les Français vis-à-vis des journalistes. Moi, je peux assurer qu'en 20 ans de journaliste, je n'ai croisé quasiment que des journalistes passionnés de leur métier, sérieux, rigoureux.
Mais vous êtes toujours crédible en allant faire le rigolo, si j'ose dire, à l'après-midi sur France 3.
Je comprends la question. Et moi, mon pari, c'est que les téléspectateurs allaient comprendre assez facilement, parce qu'ils sont suffisamment intelligents pour le faire, que ce sont deux métiers différents, mais qu'à chaque fois, effectivement, je suis dans un rôle différent. Quand je suis journaliste aujourd'hui sur France Info, je réponds à des critères et à des règles qui sont ceux du journalisme. Et quand je suis animateur, je fais un autre métier, mais je ne confonds jamais les deux. Et d'ailleurs, pour moi, c'est intéressant parce que l'infotainment est une forme de danger pour l'information.
Et donc, vous ne contribuez pas à désacraliser ce métier,
non,
Samuel Etienne.
Non, parce que le matin sur France Info, je ne fais pas l'animateur. Même si j'aime faire, mais depuis toujours, un pas de côté par rapport à l'info, créer du sourire quand c'est possible, bien sûr. Mais je suis, je crois, 100% journaliste, donc je ne mélange pas les genres. Et loin de moi l'envie de décrédibiliser ce métier, sinon j'arrêterai tout de suite. Et quand je suis animateur, j'essaie d'apprendre ce nouveau métier et un peu de faire le foufou, c'est vrai.
Les Gilets jaunes, qui critiquent largement les médias, ont une place de choix dans les émissions de Cyril Hanouna sur C8. Hanouna, qui a aussi organisé, on s'en souvient, le grand débat avec Marlène Schiappa, il est adoubé, si j'ose dire, par une bonne partie des Gilets jaunes, justement parce qu'il n'est pas journaliste. Pensez-vous qu'il faille passer par une phase de désacralisation de ce métier ?
Non, là encore, je suis désolé, mais il faut trouver des moyens. Ça passe peut-être par une sensibilisation à l'école. Je pense qu'il faut apprendre les médias. Il faut apprendre à regarder, à lire les médias. Il faut apprendre ce qu'est une source fiable ou pas. Nous vivons actuellement, à cause de l'accélération du temps info, à cause d'Internet, à cause des chaînes info aussi, on vit une révolution de notre métier. Et aujourd'hui, ce regard très négatif que portent notamment les Français, mais je pense que c'est dans le monde entier la même chose, sur les gens, je ne le comprends pas. Il faut qu'on fasse amende honorable. Peut-être qu'on s'est mal expliqué, peut-être qu'on a mal expliqué notre métier, peut-être qu'on l'a mal fait découvrir. Mais nous ne sommes pas des menteurs, nous ne sommes pas des manipulateurs. Nous avons la vérité chevillée au corps. Alors évidemment, nous faisons des erreurs comme tout le monde parce que l'humain est faillible et nous ne prétendons pas à la vérité, mais en tout cas, nous prétendons à l'honnêteté. Je peux vous l'assurer. Et j'aimerais que tous les journalistes essayent de travailler ensemble pour convaincre les Français de cela.
Vous présentez la matinale debout dans l'open space de la rédaction. C'est une manière de montrer les coulisses, bien sûr. Ouais. Et vous n'hésitez pas à vous amuser des couacs et des pépins.
9h10, venez, j'emmène Nathanaël, mon cadreur, à la recherche de Patrice Romden, parce que c'est l'heure de la revue de presse, puis il n'est pas là. Alors, bon réveil, bon courage à tous. On se vendredi matin, petite décision, j'ai l'air plus grand que Sébastien Thomas. En fait, c'est parce que je suis sur une petite estrade. Je n'ai pas fait exprès, mais voilà.
Exactement.
Excusez-nous, on travaille, monsieur. En fait, non, on va expliquer, monsieur. Charles, vous êtes à l'antenne depuis 15 secondes. Voilà, c'est l'avantage de travailler en open space.
Voilà, mais je suis... Je consens...
On est à l'antenne. Ben, c'est merveilleux.
Ah, mais c'était nous. Ah, ben, si.
L'amour, la sexualité à 70 ans, quelques conseils, ça vous? Non? Bon, je vais essayer. À tout à l'heure.
On va la mettre de côté, cette séquence. Je pense qu'on peut la garder pour... On va la mettre de côté.
Vous cultivez ce côté Gaston Lagaffe de l'info, Samuel Etienne?
Non, mais là encore, c'est mon caractère. C'est-à-dire que sur 3h30, alors évidemment, c'est un medley, donc les gens qui n'ont jamais écouté la matinale le France Info, ils disent « Ok, d'accord, donc là, c'est pain d'air tous les matins. » Et pas du tout, en fait. C'est un concentré de plus de 2 ans d'antenne, là. Mais 3h30 d'antenne, puis c'est pas à vous que je vais l'apprendre, il y a des petites choses, parce qu'on est dans l'humain, donc il y a des choses qui arrivent en retard. Et moi, plutôt que essayer de les masquer,
vous insistez.
J'aime bien mettre le doigt. Pourquoi? Parce que, alors, c'est aussi ma façon de faire découvrir les coulisses de notre métier. Je crois que les gens sont friands des coulisses. Comment c'est fabriqué? Et c'est aussi, alors, il y a le côté un peu gag, hein. J'aime faire sourire. Et puis, j'aime bien aussi, parfois faire un pas de côté pour oublier la dureté du monde dans lequel on vit. Bon, ça, j'ai toujours essayé de faire ça. Mais, au-delà de ça, en montrant qu'on fait un truc humain et faillible, j'essaie de montrer aussi une autre facette de notre métier en montrant, voilà.
Humaniser le métier.
On fait notre maximum, mais on n'est pas des robots, on n'est pas des machines.
La télé le matin est-elle conçue comme de la télé qui s'écoute plus qu'elle se regarde?
Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah ben ça, j'en ai pris conscience en le faisant, de la télé le matin. Par exemple, on a très vite décidé les sujets. On a des sujets no comment, par exemple, des sujets totalement images le matin, parce que c'est une des signatures de France Info, ça. Eh bien, on les a enlevés de la matinale, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que le téléspectateur du matin écoutait la télé un peu comme une matinale de radio, en beurrant ses biscottes, etc. Et donc, on a aménagé effectivement le contenu de notre matinale pour qu'on puisse l'écouter autant que de la regarder.
Vous savez que certaines antennes de France Bleu, en partenariat avec France 3, expérimentent en ce moment la matinale radio filmée, diffusée à la télé, à Nice et à Toulouse notamment. Et les têtes pensantes de ce dispositif assurent qu'il s'agit d'inventer un nouveau modèle qui serait ni de la radio filmée, ni une émission de télé conçue comme telle. Il n'est pas un peu dangereux, cet entre-deux?
Dangereux, je sais pas. Vous avez peut-être vu le même article que moi dans le Parisien ce week-end, qui était très très dur sur cette expérimentation. Alors moi, j'ai pas vu le résultat. J'ai vu que les critiques de cette expérience disaient que c'était de la radio filmée, donc ça n'apportait pas grand-chose. Je pense que c'est le sens de votre question. J'ai pas d'avis. Je pense qu'en fait, on peut mélanger les gens à condition que ce soit bon et que ce soit réussi journalistiquement et que ça plaise à l'auditeur ou au téléspectateur. Le seul critère, en fait, c'est ça. Donc on essaye. Moi, ça me dérange pas. C'est pas moi qui vais critiquer le mélange des genres. Je suis pas mal placé pour le faire. Mais l'important, c'est que ça marche et que les gens nous fassent confiance.
Un mot très rapidement sur le regroupement des chaînes d'infos dont on parle beaucoup. Canal 27, pour France Info. Est-ce que c'est une bonne idée, à votre avis, de mettre les 4 chaînes d'infos à la suite, ce qui ferait plonger a priori les audiences de BFM TV?
C'est ce que semble redouter BFM, en tout cas.
Alain Veil, le patron de BFM, parle d'une agression politique sur notre antenne dans l'instant M.
Il est dans son rôle, c'est dans son rôle de lobbying pour défendre sa chaîne. Moi, je le comprends tout à fait, en tout cas ce qu'il fait lui. Après, qu'on regroupe dans une même zone de la TNT les chaînes info, ça me semble cohérent. Et deux, ça me semble mettre ces chaînes un peu à armes égales. On sait qu'en télévision, il y a une primeur à la chaîne qui est devant. On le voit avec TF1, par exemple, depuis toujours. Donc je pense que ce serait bien qu'on soit tous dans la même cour d'école.
Merci beaucoup, Samuel Etienne. Question pour un champion, 18h10 sur France 3 et la matinale de France Info, Canal 27, 6h30, 9h30 avec Karine Basté-Régis. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Et bonjour, Ali Rébé.
Bonjour, Dorothée Barba.
Le programme de Grand Bien vous fasse.
La médecine du bon sens, ma bonne dame. On s'intéresse à la médecine préventive. Nous recevons le cardiologue Frédéric Salman et le psychiatre Michel Lejoyeux. Toutes vos questions et témoignages au 01 45 24 7000.
Ce sera après les infos.